de réconfort.
Tu as besoin d'une réponse de ma part.
Oui.
Oui. Ok. Je pense que c'est de la glace. En fait, Mathurin, il m'en a apporté il n'y a pas longtemps. Voilà, donc oui, c'est ça, la glace. Mais, donc merci Baptiste pour cette question surprenante et imprévue. Voilà. La semaine passée, on a eu Jean-Marie et Brigitte Ribet, donc le samedi pour une formation à la prédication, et le dimanche aussi. Et je vous avoue que je lui ai piqué 2-3 outils. Par exemple, en ce moment, je suis en train de faire l'introduction. Voilà. Non, mais bien plus qu'au-delà d'une belle structure ou de jolis mots, ce que j'aimerais vous partager ce matin, c'est vraiment un bout de ce qui m'anime, un bout de ma pensée et d'une pensée reçue pour nous ce matin à développer ensemble avec l'aide du Saint-Esprit. Je fais aller le... Voilà, ok. Le chant du printemps, un titre un peu énigmatique, et ça, c'est pour François, que je ne vois pas droit là. Ah voilà, parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi, pour ta famille et pour nous en tant qu'Église, et ce que j'ai apprécié particulièrement avec les messages et l'apport de la parole de la part de François, c'est qu'il y avait toujours un aspect entre guillemets énigmatique, mais en fait qui moi personnellement me permettait de pouvoir travailler sur ce qui a été reçu après le culte, après le message. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée. D'où ce titre. Nous sommes d'accord, j'imagine, pour affirmer que nous ne sommes pas définis par ce qu'on pourrait voir premièrement de nous. Ce qui ne nous définit, c'est ni notre métier, ni notre situation financière, ni notre physique, que ce soit cheveux, pays, âge. Ce qui ne nous définit pas n'est pas non plus un état, une maladie, une situation, une émotion. Tout ça, ce sont des ajouts qui sont descriptifs. Oui, ce sont des faits qui peuvent être passagers, oui, mais ce n'est pas ça qui nous définit. Ce que nous sommes, c'est homme et femme faits à l'image de Dieu. En Genèse 1, 27, oups, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ça va venir. Je vous le lis. Ok, c'est en Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et c'est ceci qui nous définit. Prenons, si vous le voulez bien, l'évangile de Jean, maintenant, chapitre 9, qu'on va décortiquer ensemble avec cette pensée en arrière-plan. Oh, ce matin, c'est terrible. Hein, alors, prenez Jean 9, le chapitre, s'il vous plaît, de 1 à 12. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va au bassin de Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais pas ». Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Mais avant d'être aveugle, c'est un homme. Et dès le premier verset, nous sommes encouragés à regarder les personnes pour ce qu'elles sont et non pas d'après leur problème, maladie, péché ou que sais-je. Dès le premier verset. Ensuite, la première question des disciples, elle démontre la logique de la chair à vouloir comprendre quelque chose qu'elle n'a pas réussi à capter, qui lui échappe encore. La question c'est, qui est responsable de cet état? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les parents? C'est autre chose? C'est quoi? Pourquoi? J'aimerais comprendre pourquoi cet état, afin peut-être de le régler par moi-même. Mais la plupart des juifs de l'époque également croyaient que toute infirmité et souffrance était le résultat d'un péché grave. Alors dans ce contexte, Jésus se sert des souffrances de cet homme pour révéler quelque chose de nouveau. Comme à son habitude, Jésus répond aussi d'une manière énigmatique, ça arrive assez souvent, et il dit « Mais c'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Et oh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très étonnant comme réponse. C'est pas ça que les disciples attendaient en fait. Et tout de suite, moi-même, je suis pas certaine d'avoir compris la totalité de cette réponse. Mais ce que je peux ajouter, c'est que dans cette réponse, Jésus nous communique quelque chose de nouveau à venir. Il communique aux disciples quelque chose qui est nouveau et qui ne vient pas du monde, qui n'est pas encore actuel. C'est une logique qui est différente de ce qui a été connu jusqu'à présent. C'est une logique qui est liée à la venue de Jésus sur terre, une logique qui est liée à un nouveau commencement, à un rétablissement de la vérité par Jésus à la croix. Car Dieu résout le problème du mal à la croix. Et Jésus, il explique ça aux disciples, qu'en fait, ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est quelque chose de nouveau. Mon enseignant de l'épître de Jean, il dirait que c'est une logique qui n'est pas du passé pour arriver, mais c'est une logique du futur pour s'établir. Et j'ai pas tout de suite, j'avais la même expression. Et pour ça, je vais illustrer mon propos tout de suite. Mais dans cette nouvelle réalité, alors même ce qui était mort, de naissance, l'aveuglement dans ce cas, reprendra vie. Et Jésus, dans les versets qui suivent, il annonce concrètement cette nouvelle réalité. Comment? En guérissant l'aveugle. C'est une annonce concrète du nouveau royaume qui vient. J'illustre. J'espère que ça va vous aider. Donc, la semaine passée, je marchais dans la forêt. La forêt est le plus bel endroit du monde. C'est vraiment waouh. Et je marchais et je vois au sol toutes ces feuilles mortes qui sont ternes. Et je dis, ouh, il y a beaucoup de feuilles quand même là par terre. Et je vois les arbres, ils sont dénudés, il n'y a plus de feuilles. Et alors que je m'avance comme ça dans cette forêt toute grise, là, j'entends un son, j'entends un chant. Très joli. Et je tourne la tête et je vois une mésange. Je vois la mésange. Très belle, avec son ventre un peu jaune, vert, avec ses ailes gris-bleu, sa tête noire et ses joues toutes blanches. Et là, je la regarde et je l'observe. Et tout à coup, j'en vois une, deux, trois. Et je dis, oh, waouh. Je m'arrête, je les regarde. Et elle chante et elle s'active. Elle s'active. Et là, j'ai compris quelque chose. J'ai compris qu'au début de l'hiver, le printemps se prépare déjà. Durant l'hiver, le printemps et la floraison arrivent. Et Jésus, à l'époque du Nouveau Testament, est l'homme, 100% homme, 100% Dieu, qui annonce la venue du printemps. Au verset 4, « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Jésus, la lumière du monde. Jésus ne dit pas que c'est fini après son départ. La nuit vient égale la croix. La croix arrive, mais égale donc un jour nouveau. La résurrection de Jésus établit donc Jésus comme lumière éternelle du monde. Au verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » La mésange est la lumière qui annonce le printemps. Alors que nous sommes tout juste au début de l'hiver, c'est vrai, le grand froid n'est pas encore arrivé, pourtant, elle annonce déjà l'espoir du printemps qui est à venir. Dans cette forêt, elle apporte un chant nouveau, elle apporte de la couleur, elle apporte de la joie. Et nous sommes appelés à être la mésange qui annonce maintenant le retour de Jésus. En plein hiver, nous sommes appelés à annoncer la venue du printemps. Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour pouvoir le faire, c'est-à-dire sa lumière nous a été donnée et c'est à nous maintenant de pouvoir poursuivre cette œuvre. Et j'ajoute aussi que cet oiseau, il y en a énormément en Suisse. Et en fait, c'est parce qu'il y a une caractéristique, c'est qu'il s'adapte facilement au temps, à ce qui se passe, aux saisons. Et j'ajoute juste ça comme ça. La mésange s'adapte à son contexte. Et deuxième donnée, c'est que déjà fin mars, les mésanges, elles font leur nid. Donc avril, elles sont occupées à protéger leurs œufs. Ça veut dire que je ne peux pas, tu ne peux pas attendre le printemps pour annoncer le printemps. Parce que quand le printemps sera là, on aura aussi d'autres choses à faire. Donc c'est pendant l'hiver qu'il le faut. Jean 9, 6. Après avoir dit cela, Jésus crache par terre et avec sa salive, il fait un peu de boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Encore quelque chose de très intéressant et nouveau dans ce passage plein de ressources étonnantes. Après avoir dit cela, Jésus crache par terre et il fait de la boue. Alors bon, moi ça ne me dérange pas, je ne sais pas si on aurait pu faire autrement. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais quand même, je me dis, ça m'interpelle. C'est pas un problème, mais ça m'interpelle. Je me dis, ok, pourquoi c'était nécessaire de faire comme ça? Et est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dire? Alors, j'ai regardé peut-être les traductions, me dis peut-être, on sait jamais. Mais effectivement, la racine du terme employé, c'est crachat. Dans beaucoup de traductions, hop là, nouvel français courant, après ces mots, il cracha par terre, parole de vie. Il crache par terre, colombe, il crache à terre. Enfin, nous voyons, même Darby, ayant dit ces choses, il cracha en terre. Bon, nous sommes d'accord que c'est le terme qui a vraiment voulu être employé pour ce passage. Donc maintenant, je n'avais plus de doute. Jésus a utilisé de la salive pour guérir l'aveugle. Oui, ce n'est pas la première fois. Déjà en Marc 8, 23. En Marc 7, 33 également. Et cette technique, en fait, c'était pas bizarre chez les Juifs et les Grecs à l'époque. C'était bizarre si c'était accompagné d'incantations ou quelque chose comme ça, et ça, c'était banni par les rabbins, oui. Mais je veux dire, utiliser la salive, ça, c'était pas bizarre. Il y a plusieurs études aussi qui parlent, j'ajoute juste ça, sans développer. Irénée, un des pères de l'Église, il commente l'usage de la salive comme étant un geste créatif, dans le sens que de nombreux pères de l'Église, ils ont vu dans cet acte la boue utilisée par Jésus comme un rappel de Genèse On revient à Genèse. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Mais ce que je comprends de tout ça, c'est que chaque guérison, elle était faite sur mesure par rapport à la situation et au contexte. Je comprends également que Jésus ne faisait rien par hasard. C'est pour ça que j'aimerais vraiment comprendre ce geste-là et ce terme, parce que c'est écrit « cracher » et pas « saliver ». C'est pour ça que je m'intéresse au terme. C'est très intéressant et c'est très différent. Mais maintenant, regardons peut-être et lisons. Alors, avec en tête, j'espère que... Alors, petit tips de Jean-Marie, toujours regarder dans la salle si on est là. Et... ouais, je... Bon. Non, non, c'est pas vrai. On est là. Très sympa. Donc, après tout ce qu'on a eu déjà là comme information, c'est beaucoup. Recadrons et lisons maintenant, juste avec en tête les observations qu'on a faites en amont. Le retour du printemps. On revient à notre texte, verset 1. Jésus vit un homme, aveugle de naissance. Retour du printemps. Gardez ça en arrière-plan. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. D'accord. Imagine, l'homme, il est aveugle, il peut tendre la main, il entend, il n'a jamais eu le sens de la vue. Il n'a jamais vu. Il a donc certainement développé un sens plus de l'ouïe. Et quand Jésus crache à terre, l'homme entend. Et ce n'est certainement pas la première fois qu'il entend ce son, un son de mépris. Quand tu craches à côté de quelqu'un, c'est sonore, c'est mécanique. Même si tu ne le vois pas, tu l'entends. J'ai la définition en dictionnaire biblique de tout temps chez les orientaux, c'est mépriser, de cracher près, proche de quelqu'un. Et encore aujourd'hui, on est d'accord. Donc... si j'étais dans la rue et que je prêchais sur un tabouret, je n'hésiterais pas maintenant à cracher par terre pour illustrer et montrer que oui, ça fait du bruit de cracher. Mais je ne le ferais pas, parce qu'il y a de la belle moquette et on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais c'est pour dire que l'aveugle, il ne voit pas, mais il entend quelqu'un cracher, mais c'est certain, c'est certain. Donc Jésus, qui est pur et saint, il crée à cet instant même quelque chose de nouveau, du crachat de mépris qui n'est pas celui de Jésus, mais du monde, parce que Jésus n'a pas craché de mépris, ne le ferait jamais, ne l'a jamais fait. Le crachat de mépris est transformé en cet instant en crachat de guérison par Jésus. Le mépris du monde est transformé en guérison par Jésus. Comment l'homme aveugle a pu être guéri ? Personne ne faisait attention à cet homme. Pourtant, dans le premier verset du chapitre, le premier verset du chapitre, ce qui suit après Jésus, c'est juste ce verbe « vit ». Jésus vit, il l'a vu. Jésus a vu cet homme. Alors que personne ne regardait à cet homme, Jésus l'a vu. À l'époque, les mendiants aveugles et paralytiques sont impurs. Donc non, on ne les regarde pas. On ne fait pas attention à eux. Ils sont invisibles. Mais ô combien de personnes sont cet aveugle encore aujourd'hui ? Les pauvres en marge, en marginaux, les invisibles, les cœurs brisés, ceux qui n'ont personne, qui sont méprisés. À l'époque, appelés les malades, les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les mendiants. J'ai discuté avec pas mal de sans-abri ces derniers temps parce que j'ai passé un peu ces dernières périodes dans les gares. Non pas juste parce que je déménageais de lieu en lieu. Bref, et j'ai croisé beaucoup de monde dans les gares, beaucoup de monde dans les trains, et j'ai eu pas mal de discussions. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est cette information et affirmation qu'on me donnait, mais je suis tout seul, on ne me voit pas. Alors je ne peux pas lire l'évangile de Jean sans faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, dans nos rues, ici en Suisse, ce serait aveugle de ne pas se rendre compte qu'on parle exactement de la même chose dans Jean et aujourd'hui. Nous sommes au verset 6. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin. » Il y alla et il se lava. Il revient, voyant clair. Une chose nouvelle a été créée. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Et il dit « Oui, c'est lui. » « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui, il dit « Non, non, c'est moi. C'est vraiment moi. » Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Et là, on arrive dans quelque chose de nouveau aussi. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux. Il m'a dit « Va, lave-toi. » Je suis allée, je me suis lavée et j'ai vu. Il est allé, il s'est lavé et il voit. La guérison, elle est effective au moment même où il est lavé. Va, la foi en action, je me suis lavé. Est-ce qu'en arrière-plan, on ne parlerait pas de repentance, de baptême ? On va laisser ça en suspens. Et j'ai vu, est-ce qu'on ne parlerait pas de la vérité ? Est-ce que Jean ne nous amènerait pas plus loin que ce que les lignes du texte aimeraient juste nous dire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus à comprendre par ce texte ? Moi, ce que j'observe, c'est que Jésus, il crache. Et ça, ça crée quelque chose de nouveau. Et ensuite, il fait de la boue, qui est une référence à la création de l'homme par Dieu lui-même. Et moi, j'entends qu'il est allé, il s'est lavé, et qu'il a vu. Mais ça, ce n'est pas une œuvre sociale que Jésus, il crée. Il apporte bien plus qu'une œuvre sociale. Jésus voit le besoin. Il décide de répondre aux besoins, mais par cette réponse aux besoins, il apporte bien plus, il annonce son règne éternel. C'est le chemin qui annonce son règne. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à être cette lumière qui répond aux besoins. Mais nous devons répondre aux besoins, oui, de notre région. Beaucoup plus que socialement, nous devons, comme la mésange, annoncer le printemps, prêcher le royaume de Dieu, prêcher la bonne nouvelle, la vérité qui est là et qui vient. Et vraiment, nous le devons, nous devons voir parce que Jésus, il vit cet homme. C'est la première chose qu'on lit. Afin que cet homme, il voit éternellement. Et on a un verset qui est en parallèle, c'est Matthieu 9, 35 à 36. Jésus parcourait toutes les villes et villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus les a vues comme brebis sans berger. Et j'aimerais clôturer ce message, qui est un message d'espérance. En proclamant que le printemps arrive, la victoire éternelle sur le péché est déjà accomplie à la croix. Mais je proclame que c'est vrai pour le monde, pour notre région, mais je proclame également ce retour du printemps pour chacune des situations où nous nous trouvons actuellement, en ce moment, parce que peut-être... Tu dis, moi, je ne suis pas en train de vivre quelque chose de facile là. Je ne vois pas comment je pourrais aider quelqu'un alors que moi-même, je tiens à peine debout. Eh bien, sache que justement, tu es à même de comprendre ce que peuvent vivre ces personnes qui elles, n'ont plus rien. Parce que toi, tu as une espérance éternelle. Tu as Jésus. Et il est tout ce dont tu as besoin. Sa grâce te suffit pleinement. Et si la seule chose que tu peux apporter à ton prochain, c'est cette espérance, eh bien c'est justement la seule chose qu'il a besoin. Rien de plus. Il n'y a pas à attendre que l'hiver passe, parce que lorsque le printemps sera là, ce sera plus nécessaire de l'annoncer, parce qu'il sera là. Et c'est un message d'espérance que nous avons à donner. Et si peut-être tu n'es pas... conscient ou pas sûr à 1000% que tu es avec Jésus, que Jésus est sur toi, avec toi, On veut encore prier ensemble pour clôturer ce message et passer à la Sainte Cène. Alors, prions. Merci Seigneur pour ce message d'espérance que tu nous transmets. Merci parce que c'est vrai, ta grâce nous suffit. Et nous avons tellement besoin de cette compréhension. Nous avons besoin de cette réelle compréhension que nous devons le partager, Seigneur, aux personnes qui nous entourent, aux personnes que nous côtoyons, que nous croisons. Seigneur, je te prie que si quelqu'un est abattu en ce moment, qu'il puisse recevoir ton espérance et ta joie nouvelle. Je te prie que si quelqu'un n'est pas sûr de t'avoir reçu pleinement, mais qu'il ait cette foi de dire « Oui, Seigneur Jésus, je te reçois pleinement et je t'accepte pleinement. » Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, je te prie pour ton Église ici. Équipe-nous à recevoir pleinement ce que tu désires faire, Seigneur, pour notre région. Sois glorifié et que ton nom soit élevé. Amen.